Bonsoir, bienvenue à la Bulac pour cette dernière soirée de la saison culturelle 2014-2015 autour de la traduction. Dans notre cycle à la table du traducteur, nous avons une troisième rencontre entre une traductrice, Marie-Vrina Nikoloff, et son auteur, Georgi Gospodinov. Cette soirée sera animée par Irina Dmitrychyn, qui va vous présenter plus précisément chacun des intervenants. Merci à eux d'être présents, merci à vous et bonne soirée.
Je vous remercie. Donc, nous allons commencer notre soirée dans le cadre du cycle des conférences à la table du traducteur, qui, comme son nom indique, est une rencontre entre deux créateurs, les deux œuvres de création, le roman et sa traduction, sa version française. Après un détour par l'Asie avec un roman vietnamien et un arrêt en Serbie, donc les deux sujets, comme vient d'être évoqué des conférences précédentes, nous allons aujourd'hui en Bulgarie puisque nous recevons Georgi Gospodinov et Marie-Vrina Nikoloff. Georgi Gospodinov est un écrivain, poète, scénariste, critique littéraire, essayiste et probablement l'auteur bulgare contemporain le plus connu. Son roman naturel est donc son premier roman a été traduit en plus de 20 langues et a en quelque sorte réconcilié les Bulgares avec le roman. Le roman qui nous réunit aujourd'hui, Physique de la mélancolie, avait été rédigé en 2012, a gagné 3 prix nationaux de meilleure œuvre de fiction, dont le prix national du meilleur roman.
Bonsoir.
Marie-Vrina Nikoloff. Et la plus importante traductrice de bulgare en français, spécialiste de littérature bulgare, on lui doit littéralement la découverte de la littérature bulgare en France par son action, mais aussi par ses traductions des auteurs tels que Jordan Radičko, Viktor Paskov, Vera Mustavchieva, Jordan Jovkov, Sevda Sevan, Kirill Kadiski, Mila Dvorianova, Alek Popov, Ivan Borislavov, Ivan Petrov, Ivan Vazov, Teodora Dimova et bien évidemment Georgi Gospodinov. J'espère que je n'ai oublié personne. Nous sommes aidés, donc je tiens à vous présenter la personne qui va traduire et qui va aider Georgi à participer à cette rencontre par notre étudiante Elena Georgieva. La première question que je souhaite vous poser, puisque le cycle est intitulé « Un traducteur et son auteur », est comment vous êtes rencontrés. Et peut-être devrais-je dire « trouver », puisque lors de la rencontre d'hier à l'Institut culturel bulgare, Georgi Gospodinov a plaisanté en disant que vous êtes ensemble depuis 4 traductions et 15 ans, ce qui fait une très longue amitié littéraire. Alors je vous laisse choisir qui va répondre ou qui va répondre en premier.
D'abord, bonsoir. Ah, alors, le problème, c'est que ça fait du bruit ou pas? Non, ça va, les micros?
Нас не събра първия ми роман. Всъщност, книгите имат това свойство да събират хора.
En fait, les livres ont justement cette propriété de pouvoir rassembler les gens, et c'est mon premier roman qui nous a rassemblés, qui nous a réunis.
Просто един ден ми звънна самата Мари Врина.
Un jour, tout simplement, Marie en personne m'a appelé.
Et каза, че е харесала естествен роман и мисли да преведе отказ от него.
Elle m'a dit qu'elle avait lu un roman naturel, qu'elle avait aimé et qu'elle voulait traduire un extrait.
Страшно се зарадвах, защото това щеше да бъде, мисля, един от първите преводи на естествен роман. Ако не първия.
Вторият.
След сръбския, да.
J'étais très très heureux parce que c'était l'une des ce devait être l'une des premières traductions de ce roman. Et donc j'ai ajouté oui, c'est la deuxième après la serbe.
И мисля, че след това тя всъщност преведе целия роман преди да е намерила издател. Просто така решихме, че може би ще се намери.
Et donc en fait, elle a traduit tout le roman avant de trouver un éditeur. Elle s'est dit que oui, elle sans doute elle trouverait un éditeur pour ce roman.
След това се видяхме, а прекарахме така прекрасно време по време на хубавите чужденки на този фестивал 2001 година.
Après, donc on s'est revus, et puis c'est vrai qu'on a eu un moment très très agréable à l'occasion des belles étrangères de 2001.
И така минаха 15 години.
Et c'est ainsi que sont passés 15 ans. Non, c'est à peu près la version que je retiens aussi. Donc je me souviens effectivement dans un café où et je me souviens surtout du fait que c'est peut-être effectivement la première fois que je traduisais intégralement un roman sans encore avoir d'éditeur, parce que c'est d'autant plus intéressant que je ne suis pas entrée tout de suite dans ce roman. Dans la mesure où il a été créé en 1999 et il détonnait énormément. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a eu une réception extrêmement, comment dirais-je. En fait, il l'a catapulté sur la scène littéraire, comme je l'écris souvent. Et il avait une écriture qui détonnait beaucoup. Et moi, j'étais encore pas habituée à cela en bulgare. J'étais habituée à cela, par exemple. Et encore non, je n'étais même pas habituée à cela, mais en tout cas par rapport à ce qui s'écrivait, qui était quand même encore très dans le sillon réaliste. Et il fallait moi-même que je m'y habitue. Et une deuxième lecture, j'ai été enthousiaste.
Il y a en tout cas entre vous un vrai mimétisme qui a dû s'installer tout de suite au fil des ans, même dans votre manière de présenter votre travail, puisque je rappelle que la particularité de cette collection est que l'œuvre est présentée par le traducteur qui explique la manière dont il a travaillé, et donc la collection rend hommage aussi au travail du traducteur. Et donc dans la présentation de votre travail, vous avez mis en exergue plusieurs épigraphes. Donc pour Georgi, c'est même un chapitre qui s'appelle Épigraphie, pour Marie un peu moins. Et donc je voudrais démarrer sur le dernier épigraphe que vous avez utilisé, Georg Gospodinov, qui est une citation d'Hemingway, le lecteur est libre d'accepter ce livre comme un roman. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une espèce de doute de votre part ? Est-ce qu'il faut y lire ce que vous dites dans le livre que vous n'aimez pas, les genres purs, le genre arien, que le roman n'est pas arien ? Pourquoi vous laissez le lecteur choisir le genre du texte que vous offrez ?
Защото не вярвам много в чистите жанрове.
D'abord donc parce que je ne crois pas beaucoup dans les genres purs, dans la pureté des genres.
Мисля, че никой от нас не живее в чист жанр.
Je ne crois pas que qui que ce soit d'entre nous ne vive dans un genre pur.
Ако разгледаме само един свой ден, ще видим през колко жанра минаваме.
Ако?
Един свой ден.
Si on considère une de nos journées, on verra dans combien de gens, par combien de gens on passe.
Исках тази книга да бъде по-различна тъкмо във връзката си с читателя, да осъществи по-различна връзка с читателя си.
Je voulais justement que ce livre puisse avoir un contact, puisse établir un contact différent des autres avec son lecteur.
Понеже това е роман за емпатията, емпатията е основната тема тук. Трябваше да има нещо по-различно във връзката с читателя.
Étant donné que l'empathie, c'est un roman sur l'empathie, l'empathie est au fondement de ce livre, et c'est pour ça que je voulais que ce livre ait un contact différent avec son lecteur.
Затова в книга, самата книга е като Ноев ковчег, в който има различни жанрове, от всеки жанр по един.
Et c'est pour ça que ce roman est un petit peu comme une arche de Noé et qu'il comporte donc un peu de chaque genre, il rassemble un peu de chaque genre en un.
Вътре ще откриете много списъци.
Donc dedans vous découvrirez beaucoup de listes.
Hexamètres stich.
Des passages en hexamètre.
Проектите на Гаустин.
Les projets de Gaustin.
Програмата на телевизията през 76-та година.
Le programme de télé en 1976.
Всички онези дребни и нетрайни неща, от които е направен живота ни.
Dont est faite la vie.
И за да бъде още по-свободен читателя, дадох едни места за спиране и странични коридори, където автора говори директно с читателя и изчаква читателите да се съберат, да не се изгубят в лабиринта на книгата.
Et pour que le lecteur soit encore plus libre dans sa lecture, c'est la raison pour laquelle j'ai créé des couloirs latéraux et des aires d'arrêt. Ça permet au lecteur de s'arrêter et ça permet à l'auteur de parler à son lecteur et surtout de s'assurer que tous les lecteurs sont bien là et qu'on n'en a pas perdu en route. Je voudrais simplement, à propos de Gaustine et des épitaphes, parler d'une... Qu'est-ce que j'ai dit ? Mon Dieu, oui, des épigraphes, pardon. Je voudrais simplement mentionner quelque chose qui est un peu anecdotique, mais qui était assez drôle. Donc, comme l'a dit Irina, toutes les œuvres de Gheorghi comportent beaucoup d'épigraphes. Et notamment, alors il y avait entre Bourdieu, entre Baudrillard, Foucault, bien du monde connu, il y avait Gaustine Haute-Art. Donc Gaustine d'Arles, 16e siècle. Et je me souviens à l'époque, quand j'ai traduit un roman naturel, j'étais en Hongrie. Et donc, il y avait pas, Internet était beaucoup moins, pas aussi développé que maintenant. Et j'ai passé un certain temps à trouver qui était ce Gaustine. Et je me rappelle que j'ai mis un certain temps aussi à enfin poser la question à l'auteur, parce que j'avais honte. Je me suis dit, mais mince, comment je vais avouer à l'auteur que je ne connais pas ce Gaustine qui doit être hyper connu ? Et puis à un moment donné, quand même, j'ai osé, je lui envoie un mail en disant, voilà, je suis désolée, ma culture générale, etc., etc., mais qui est Gaustine ? Et il me répond, ah, mais je l'ai inventé.
Ça nous rappelle une histoire qui s'est passée il n'y a pas si longtemps en France, mais on va passer là-dessus, sur un philosophe inventé. Ce que vous dites me fait penser à votre roman précédent, le roman naturel, où vous avez dit, mais la version ukrainienne, que le monde est un tout et le roman ne fait que ramasser ensemble les différents morceaux de la vie. Et on va revenir sur Physique de la mélancolie. Je vais emprunter ce que Marie avait dit au sujet de ce roman, qu'il s'agit d'un olni, donc objet littéraire non identifié. Une succession, une imbrication d'histoires, histoires inventées, histoires parfois achetées, sublimées, racontées. Il y a même une histoire invisible, puisqu'elle aurait été écrite à l'encre invisible, et donc vous avez un quart de page écrite à l'encre invisible. Donc bonne chance à tout un chacun de lire ce qui est écrit. Déjà en 2005, The Guardian avait parlé à votre sujet des snapshots de la vie, donc de ce que les jeunes utilisent aujourd'hui, cette manière de photographier la vie et de manière qui est une manière périssable en fait, de prendre une photo de la vie qui disparaît quelques secondes plus tard, une fois qu'on l'a envoyée et que ce message avait été visionné. On a aussi parlé à votre sujet d'une machine à fabriquer des histoires. Et ce qui est intéressant, il me semble, dans votre manière d'exposer les histoires, c'est que vous intéressez toujours aux petites histoires, et vous dites que l'insignifiant et le petit, c'est là que la vie se tapit, c'est là qu'elle fait son nid. En parlant de Dieu, vous dites aussi que seul le petit peut être partout. Et donc, je voudrais comprendre d'où vient cet attachement aux micro-histoires, aux petites histoires qui font des grandes histoires.
Романът е направен наистина от множество малки истории, които щъкат вътре.
En effet, ce roman est fait d'un grand nombre de petites histoires qui fourmillent dedans.
Знаете фразата, че историята, голямата история с главно и се пише от победителите.
Comme vous savez que la grande histoire avec un grand G s'écrit par les vainqueurs.
Героя на този роман казва обаче, че малките истории се разказват от победените, от по-слабите, от уязвимите.
Le narrateur, lui, il dit que les petites histoires s'écrivent par les plus faibles, ceux qui sont fragiles, ceux qui sont, ça y est, уязвим. Ceux qui sont vulnérables. Merci.
Припомне, ако си припомним Шехерезада, ще видим, че там разказвачката на истории е в трудна позиция. Тя трябва да разказва истории, за да печели още един ден живот и още един ден живот.
Si on se rappelle d'ailleurs Scheherazade, elle était dans justement la position du faible qui doit chaque jour, chaque jour, chaque jour inventer une histoire pour pouvoir gagner une journée de vie.
На мен ми се искаше в този роман да бъда на страната на по-слабите, уязвимите, да записвам техните истории, да събирам техните истории.
Et donc dans ce roman, moi j'avais envie d'être du côté justement des vulnérables, des faibles, je voulais les écouter, je voulais écrire leur histoire, raconter leur histoire.
Защото това е едно изследване върху тъгата.
Puisque c'est une étude de la mélancolie.
Победителите не тъгуват.
Les vainqueurs ne savent pas ce que c'est que la mélancolie.
Наскоро давах едно интервю и стана дума за това, че всъщност героят на този роман е вярва, е силно разколебан, непрекъснато колебаеш се, несигурен. И несигурността е част от темата на романа.
Récemment, j'ai donné une interview, il était question du narrateur de ce roman qui est toujours hésitant, qui doute toujours, qui est dans l'hésitation, qui n'est jamais sûr en fait.
И всъщност аз вярвам в тъжния и в разколебания човек.
Et moi je crois dans l'homme qui est mélancolique et qui doute.
Защото тези, които диктаторите, например, никога не са тъжни и разколебани.
Parce que les dictateurs, par exemple, ils ne sont jamais dans la mélancolie et ils sont toujours dans la certitude.
Така че това е роман за несигурността на света, в който живеем.
Ce qui fait que c'est aussi un roman sur l'incertitude du monde dans lequel nous vivons.
И колко е важно да култивираме, да поддържаме тази несигурност.
C'est un roman aussi sur l'importance qu'il y a à cultiver, à entretenir cette incertitude.
И понеже се казва физика на тъгата, то квантовата физика, ако си припомним, е също пълна с несигурност.
Et comme il s'appelle physique de la mélancolie, eh bien si on s'en souvient, la physique quantique est pleine justement d'incertitude.
Нали знаете, основният постулат там е, че ние не знаем как действат елементарните частици, когато не ги наблюдаваме, когато няма наблюдател.
Si vous vous rappelez bien, le postulat fondamental, c'est que nous ne savons pas comment fonctionnent les particules élémentaires. Je l'ai pourtant traduit, mais c'était le passage le plus difficile. Et tant qu'il n'y a personne, justement, tant qu'il n'y a pas d'observateur.
И квантовата физика доказва, че света е направен от несигурност.
Et donc, c'est ce qui démontre que le monde est fait d'incertitude.
И аз исках в романа да, така, да провокирам, да опровергая някои сигурни постулати.
Et donc, dans ce roman, je voulais justement démontrer le caractère infondé de postulats bien établis.
Затова героят, емпат, влиза в историите не само на хората, но и на минотаврите, на охлюва, на всякакви живи и неживи същества.
C'est pour ça que le narrateur, donc qui est doué d'empathie, eh bien, il peut entrer non seulement dans la vie d'êtres humains, mais aussi du minotaure, d'escargots et de tous les êtres vivants.
Накрая ще кажа, в някаква степен този роман е не антропоцентричен.
Et dans une certaine mesure, je dirais que ce roman est non anthropocentrique.
On y reviendra effectivement. Je me permettrai peut-être de lire le premier tout petit extrait afin d'illustrer ce qui vient d'être dit sur les histoires. D'où vient la force de celui qui raconte des histoires, même si c'est la force du plus faible? Est-ce du pouvoir qu'il a sur ce qu'il raconte, du fait qu'il tire entre ses mains, ou plutôt au bout de sa langue, un monde dans lequel il peut donner la mort et différer la mort quand bon lui semble? Un monde qui peut être réel ou fictif, au point de doubler le monde réel, de devenir son double. Au point que, si dans l'un, la mort penche son glaive au-dessus de toi, tu puisses t'enfuir et trouver le salut dans les couloirs de l'autre. Et je proposais peut-être la lecture du premier extrait pour illustrer votre talent de sublimer les choses les plus banales et les plus simples. Le passage sur les chats et les chaussures, donc l'observation
et les jambes.
Et les jambes, pardon, oui. Page 114 du texte.
Les accords qui étaient là.
Крака и котки. Лениви, бавни и дълги като котки след обеди. Прекарвах целия ден залепен за прозореца, защото беше най-светлото място. Броях преминаващите крака и съчинявах хората върху тях. Крака на мъже, крака на жени, крака на деца.
Jambes et chats. Après-midi indolents, lents et longs, comme des chats. Je passais la journée entière collée à la fenêtre parce que c'était l'endroit le plus clair. Je comptais les jambes qui passaient et inventais les gens qui étaient au-dessus. Jambes d'hommes, jambes de femmes, jambes d'enfants. J'observais le changement des saisons d'après le changement des chaussures. Sandales qui se refermaient peu à peu, se transformaient en chaussures d'automne avant de s'élever le long de la jambe. Élégantes bottes féminines, bottes à la mode en vernis froissé, bottes grossières en caoutchouc des ouvriers qui jetaient les poubelles, galoches en caoutchouc et épaisses chaussettes tricotées des paysans venus pour le marché du jeudi, bottes bleues ou rouges des enfants, seule tache de couleur parmi le noir et le brun prédominant. Et de nouveau l'allègement progressif, le déshabillage des chaussures de printemps, jusqu'aux pieds, chevilles et doigts nus d'été, chaussés uniquement de sandales et de tongs. Les tongs étaient un peu comme des maillots de bain pour les pieds. En automne, la fenêtre se couvrait d'un amas de feuilles jaunes rougeâtres tombées sur le trottoir, ce qui donnait dans la pièce une lumière douce et jaune. Puis le vent de fin d'automne les dispersait. Venaient alors les pluies et l'éternelle flaque devant la fenêtre. Tu es là à contempler des heures durant les gouttes qui tombent dedans, forment des bulles éphémères, de vraies armadas de vaisseaux détruits par les pas suivants. Combien de combats maritimes se déployaient dans cette flaque ? Puis la neige recouvrait la petite fenêtre et l'étroite pièce se transformait en tanière. Je me recroquevillais et formais une boule comme un lapin sous la neige. Lorsqu'il fait aussi clair et que malgré tout on se cache, invisible aux autres dont les pas crissent dans la neige à un empan de là, qu'y a-t-il de meilleur que cela ?
Justement, puisque nous avons entendu l'original et la traduction, je voudrais revenir au travail de traductrice. Vous nous avez déjà beaucoup surprise, en tout cas j'étais pleine d'admiration pour ton travail sur l'alphabet et les lettres, puisque là on opère un passage entre l'alphabet cyrillique et l'alphabet latin, les langues synthétiques et langues analytiques. Ici aussi, il y avait un jeu autour de lettres, et notamment la lettre B, qualifiée de petite aux deux chétifs. Et donc, cette lettre B devait réunir deux mots fondamentaux, Bog et Bulgaria, donc Dieu et la Bulgarie. Comment tu t'en es sortie ?
Alors, comme on n'arrête pas de le dire à nos étudiants, chaque texte demande sa propre solution. Il n'y a pas de solution toute faite. Et ce n'est pas la première fois que Georgi joue avec les lettres. Il l'a fait déjà dans l'alphabet des femmes. Et dans l'alphabet des femmes, c'était un homme qui était amoureux à la fois des lettres et des femmes et qui liait les lettres aux femmes. Et dans l'alphabet des femmes, j'avais joué moi aussi avec les lettres de l'alphabet latin. Et puis là, c'était plus compliqué. C'était plus compliqué parce que on est dans un contexte donc de la fin, plutôt le début des années 70, dans le contexte donc d'un enfant qui apprend à écrire par les noms sur les tombes, qui apprend à écrire aussi par la Bible que sa grand-mère camoufle bien soigneusement dans un papier journal, et donc le contexte de, comment dirais-je, d'athéisme militant du régime communiste était important. Et donc c'est un moment où dans la classe, on demande, la maîtresse d'école demande aux enfants, eh bien les enfants, dites-moi un mot qui commence par la lettre B, qui est effectivement la deuxième lettre de l'alphabet cyrillique, qui ressemble assez d'ailleurs au B latin, sauf qu'elle a une seule boucle, le B en a deux. Et aussitôt, le petit garçon, narrateur, auteur, ce qu'on voudra, répond spontanément « Bok », ce qui veut dire « Dieu ». Évidemment, le mot qu'il ne fallait pas dire. Et aussitôt, il y a la petite fille qui, elle, est d'une famille bien pensante, etc., etc., qui répond « La Bulgarie ». Et non seulement on est dans un contexte d'un régime qui professe un athéisme militant, mais qui, en plus, est assez nationaliste. Et donc là, donc Dieu et la Bulgarie, ce sont justement les deux termes qui sont absolument emblématiques de ces deux facettes. Donc, jouer en remplaçant, je me voyais mal le faire. À un moment donné, on avait parlé avec toi, Irina, et tu m'as dit, tiens, tu aurais pu dire la Bible. Ben non, quand même, je ne voulais pas. Je voulais vraiment les garder. Et à partir du moment où je décide de les garder, ça voulait dire qu'évidemment, bon, il y avait une note en bas de page. Mais surtout, là, je pense que le fait d'enseigner au sein de séminaires m'a aidé à oser quelque chose en me disant, bah, après tout, je verrai si je serai suivie par l'éditeur. Je ne savais pas. Et l'éditeur m'a suivie. C'est-à-dire que j'ai décidé que, étant donné que tout ce passage est sur l'apprentissage de la lecture, l'apprentissage d'un alphabet qui est différent, l'alphabet cyrillique, que donc cet alphabet est important lui-même, qu'il est à la fois signifiant et signifié, si je puis dire, je me suis dit que j'allais oser de laisser cette lettre B en cyrillique, les mots Bok et Bulgaria en cyrillique, en mettant entre parenthèses la manière dont ça se prononce quand même en français, et puis en mettant ce que ça veut dire dans une note. Voilà, c'est ce que j'ai décidé dans ce livre-là.
D'accord. Et en fait, puisqu'on parle de nos cours, nous parlons beaucoup de méchonique, donc de la manière méchonicienne de traduire, donc de faire à la langue d'arrivée ce que la langue fait, enfin ce que le texte fait à la langue de départ et qui est le seul de faire. Et peut-être je voudrais que tu parles d'une autre trouvaille de traduction qui est le enfant, donc qui n'est pas un enfant mais
Alors effectivement quand je traduis, et surtout des auteurs comme Georgi Gospodinov qui ont une vraie langue poétique et un vrai travail sur la langue, je dois dire qu'il y a deux choses que j'ai toujours en tête. Ce que tu viens de dire de méchonique, à savoir là ce que je traduis, en quoi il fait quelque chose à sa langue qu'il est seul à lui faire. Et donc, je vais faire quelque chose à ma langue, le français, puisqu'on traduit des textes, on ne traduit pas des langues. Et la deuxième chose aussi, c'est que ne pas oublier que l'œil doit écouter. L'œil, en principe, il est fait pour voir, pour lire, et il le fait. Mais là, on a tellement d'assonances, de rimes, pas cachées, mais en tout cas qui demandent à ce qu'on les entende, effectivement, qu'on ne voit peut-être pas forcément, que c'est un vrai bonheur de traduction. Alors, les enfants, c'est parce qu'à un moment donné, ils parlent des gamins. Gamin, en bulgare, en principe, c'est chwapé, avec un ch au début et l'accent sur la finale. Sauf que là, eh bien, il explique que dans sa région, on disait d'une autre manière. Donc, on escamotait le ch et puis on mettait l'accent sur la première. Donc, je me suis demandé ce que j'allais faire. Je ne sais plus par quelle solution je suis passée. J'ai peut-être essayé quelque chose avec gosse et puis ça ne marchait pas. Et puis, je me suis dit, ah ben oui, au fait, les enfants. Les enfants, et voilà, c'est comme ça que c'est devenu la liaison qui est devenue un mot à lui-même.
D'accord. Très bien. Donc, effectivement, la préface, c'est la raison de ce cycle, d'expliquer un petit peu peut-être de ce secret en fait de traduction. Et il y a une comparaison qui m'a toujours paru intéressante entre la traduction et son œuvre, c'est que la traduction, c'est comme l'envers d'une tapisserie. C'est-à-dire qu'on voit derrière les fils, les nœuds, mais en lisant la préface et en lisant le travail, on peut se rendre compte que tout comme pour une belle tapisserie, une vraie belle tapisserie, une vraie belle broderie, on ne voit pas les défauts de l'enfant, c'est-à-dire qu'on ne voit pas la manière dont cela a été fabriqué, il n'y a pas de nœuds, il n'y a pas de fils qui pendent, mais on peut s'apercevoir les couloirs par lesquels la brodeuse ou la tisseuse avait passé, de même que l'explication qui est donnée dans la préface, de la manière, comme ce que tu viens de faire, la manière dont telle ou telle solution avait été trouvée, n'enlève rien à la beauté du texte et de la traduction. En revenant au livre, on parle beaucoup dans ce roman de. Il est beaucoup question de mythologie et des couloirs où se promène, se perd et se tapit le Minotaure. Il y a aussi les histoires de Scheherazade, qui sont aussi des couloirs qui s'enfilent les unes après les autres. Ce sont des histoires et des couloirs qui nous mènent vers le labyrinthe, et vous dites, Georg Gospodine, à un moment donné, que nous sommes des labyrinthes, et vous ajoutez même une liste avec tout ce qui ressemble au labyrinthe et les couloirs, les plis du cerveau, les volutes de l'ADN, les méandres de l'intestin, photo à l'appui, avec cette autre magnifique formule que les labyrinthes, qu'un labyrinthe, c'est une hésitation pétrifiée. Vous réécrivez sans cesse aussi l'histoire, petite comme on vient d'en parler, mais aussi les grandes histoires de l'humanité. Et vous avez dit un jour, enfin dans un moment dans votre roman, que l'histoire du monde peut être décrite à travers l'abandon de l'enfant. Et je vous propose de lire donc un des passages les plus dramatiques de ce livre sur un enfant abandonné, qui est l'histoire d'une jeune mère qui a 8 enfants en 1917 et qui est dans une situation de pauvreté et de dénuement extrême, au point de se décider à faire quelque chose d'absolument impensable.
En fait, ils sont dans un moulin, puisqu'ils ont été, ils ont apporté les sacs de blé pour en faire de la farine. Et puis, que se passe-t-il avec le petit ? Maman, on a oublié Georgi. La voix effrayée provient de derrière son dos. Dana, l'aînée. Silence. 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 Un silence épais et pesant. Un silence et un secret qui se transmettra plus tard, année après année. Que fait la mère ? Pourquoi se tait-elle ? Pourquoi ne force-t-elle pas la charrette à faire immédiatement demi-tour et à galoper vers le moulin ? C'est la guerre. Les gens sont des êtres humains. Ils ne laisseront pas un enfant de 3 ans tout seul. C'est un garçon. Quelqu'un le prendra, s'en occupera. Il y a des femmes stériles, avides d'enfants, il aura plus de chance. Ce sont des mots que j'essaie de trouver dans ses pensées. Mais là, il n'y a qu'un silence. On l'a oublié, répète la fille dans son dos à travers ses larmes. Peu importe si le mot est différent, on l'a abandonné. Encore une longue minute qui passe, j'imagine le visage de ceux qui ne sont pas encore nés. De cette minute, ils jettent un regard furtif et retiennent leur souffle. Les voici qui se montrent à travers la palissade du temps. Mon père, ma tante, l'autre tante, voici mon frère, me voici moi aussi, voici ma fille qui se hausse sur la pointe des pieds. C'est de cette minute et du silence de la jeune femme que dépend leur, notre, apparition au fil des ans. La femme soupçonne-t-elle tout ce qui est en train de se résoudre en ce moment ? Enfin, elle lève la tête, comme si elle se réveillait, revient là où elle est et regarde autour d'elle. La plaine de traces infinies, des chaumes brûlées, la lumière changeante du couchant, l'âne qui broute des herbes desséchées, indifférent à tout, les 3 sacs qui finiront au beau milieu de l'hiver, 3 de ces 6 filles qui attendent ce qu'elle va dire. Le péché est déjà accompli, elle a hésité un instant. Elle a pensé ne serait-ce qu'une minute l'abandonner. Elle a la voix sèche. Si tu veux, tu peux y retourner. C'est adressé à Dana, la plus grande, qui a 13 ans. La décision est rejetée sur un autre. Elle ne dit pas « on va retourner ». Elle ne dit pas « retourne là-bas ». Elle ne bouge pas. Et pourtant, mon grand-père de 3 ans a encore une chance. Dana saute de la charrette et court sur le chemin noir. Nous qui regardons à travers la palissade de cette minute, encore pas née, nous rentrons la tête et poussons un soupir de soulagement. Le soir tombe. Le moulin est demeuré des kilomètres en arrière. Une fillette de 13 ans court sur le chemin noir, pieds nus, la brise vespérale déploie sa robe. Tout est vide alentour, elle court pour épuiser sa propre peur, la prendre à la gorge. Elle ne regarde pas sur les côtés, chaque buisson ressemble à un homme tapis. Toutes les histoires terribles qu'elle a écoutées le soir de bandits, loups-garous, dragons, mauvais génies et loups courent par meutes entières sur ses talons. Si elle se retourne, ils vont lui sauter sur le dos. Je cours, je cours, je cours en ce soir de septembre encore tiède, seule au beau milieu d'un champ, sur la boue séchée du chemin que je sens de plus en plus fortement sous mes pas, Mon cœur cogne dans ma poitrine. Là-bas, quelqu'un est accroupi au bord du chemin. Mais pourquoi il a le bras bizarrement tordu vers le haut? Ah, c'est un buisson. Voici au loin les premières lumières du moulin. C'est là que doit être mon frère, grand-père, moi, âgé de 3 ans. La mère, qui est aussi mon arrière-grand-mère, a vécu 93 ans, passant de la fin d'un siècle à celle d'un autre. Elle faisait partie de mon enfance. Ses enfants ont grandi, ils se sont dispersés, l'ont quittée, ont vieilli. Seul l'un d'entre eux ne s'est jamais séparé d'elle et a continué à s'occuper d'elle jusqu'à sa mort. Le garçon oublié. L'histoire du moulin était entrée dans les secrets de la chronique familiale. Tous la chuchotaient. Qui, avec compassion à l'égard de grand-mère Kala et en témoignage de ses temps terribles, qui pour plaisanter, qui d'un ton ouvertement accusateur comme ma grand-mère. Mais personne ne la racontait devant grand-père. Lui non plus n'y a jamais fait allusion. Il ne s'est pas séparé de sa mère. Ironie tragique, comme on en trouve habituellement que dans les mythes, lorsque l'histoire est parvenue jusqu'à moi, cet après-midi-là, l'héroïne principale n'était plus là. Je me rappelle avoir tout d'abord éprouvé de la fureur et de l'incrédulité, comme si c'était moi que l'on avait abandonnée. Pour la énième fois, j'ai douté de la justice universelle. Cette femme a vécu jusqu'à un âge très avancé, entourée des soins de ce garçon de 3 ans, naguère abandonné. Mais peut-être est-ce justement cela le châtiment, vivre aussi longtemps et avoir chaque jour à ses côtés cet enfant, l'abandonné.
Georgie, est-ce que vous voudriez dire quelque chose?
Това действително е част от моята родова история.
C'est effectivement une partie de mon histoire familiale.
И допреди да седна да пиша романа, винаги съм приемал тази история, винаги съм я разказвали като нещо смешно. Майката се е разсеяла с толкова много деца и просто е забравила едно от тях.
Et avant d'écrire le roman, en fait, je racontais plutôt quelque chose de drôle. Hein, voilà, une femme qui a tellement d'enfants que, eh bien, par inadvertance, par un moment de distraction, merci, elle oublie le petit.
И когато трябваше да вляза в главата на моя герой, а той да влезе в главата на в самата история. Изведнъж си дадох сметка колко дълбока е тази история.
Et puis au moment où j'ai dû entrer dans la tête de mon héros et que lui a dû entrer dans ce chapitre, dans le chapitre de ce livre, je me suis rendu compte de à quel point c'était une histoire qui est la profondeur de l'histoire.
В романа има доста такива истории, които се разказват в различни вариации според различната гледна точка на разказвача.
Dans ce roman, il y a plusieurs histoires qui sont racontées de manière différente, de plusieurs points de vue, justement selon le narrateur.
Понякога една и съща история може да звучи трагически дълбоко и в същото време може да разказана от друг човек, от друго същество, може да звучи леко и така фриволно.
Par exemple, une histoire qui serait racontée par quelqu'un de manière absolument tragique, pourra être la même histoire pourrait être racontée par un autre de manière légère et frivole.
Но тази тема за изоставянето от това 3-годишно момче през 3-годишния минотавър до детето, което чухте в първия отказ, което живее на приземния етаж, това е нишката на Ариадна, която минава през целия роман.
Le fil d'Ariane qui passe à travers tout ce roman, c'est effectivement l'histoire de ces enfants abandonnés entre le grand-père de 3 ans, le minotaure de 3 ans et le petit garçon de 3 ans dont il était question qui était devant la fenêtre.
И тук трябва да кажа нещо заради мястото, на което се намираме.
Et là, je veux dire quelque chose à cause du fait de l'endroit où nous nous trouvons.
Моята идея да радикално да сменя или радикално да дам друга история, друга интерпретация на Минотавъра, в някаква степен е свързана и с Париж.
Mon idée de donner une autre interprétation à l'histoire de Minotaure, eh bien, dans une certaine mesure, elle est liée à Paris.
В тази книга Минотавъра е 3-годишно изоставено дете, И ако се върнем на мита и го прочетем отново, ще видим, че това е по-достоверната версия. Това е изоставеното дете, заключено в мазето на цар Минос, защото е различно, защото е дете на прелюбодеяние.
Et donc cette histoire, en fait, si on la relit bien, c'est l'histoire d'un enfant abandonné, un enfant qui a 3 ans, qui est abandonné dans la cave du palais du roi Minos, qui le rejette parce qu'il n'est pas comme les autres et parce qu'il est l'enfant de l'adultère en plus avec un animal.
Аз направих доста голям ресърч, докато писах романа, и разбира се, никъде в античната и класическа литература гласа на Минотавъра, неговата гледна точка не е дадена, тя отсъства.
Donc j'ai fait pas mal de recherches en littérature classique, la littérature antique aussi, et à aucun moment on entend la voix du Minotaure.
Навсякъде той е чудовище, звяр, който изяжда девойки и младежи.
Partout c'est un monstre, c'est le fauve qui dévore donc des jeunes gens et des jeunes filles.
Има само едно визуално доказателство. И то се съхранява, според това, което съм чел, на около 300 метра от тук, или 400.
И on ne trouve que un seul témoignage de cet autre point de vue. Et ce témoignage, si je comprends bien, se trouverait à 300 mètres d'ici, Bibliothèque nationale.
И това е един запазен рисунка върху киликс.
Donc c'est un dessin sur un kilix.
Много е малка от тук, но я има вътре в романа, ще я видите.
И c'est dans le roman, donc vous pourrez le voir, parce que ici vous verrez rien.
Това е майката Пазифая, която е изрисувана като Мадоната с Минотавъра, няколко века преди Мадоната.
Et donc c'est la Madone au Minotaure, enfin c'est Pasiphae avec le Minotaure qui justement est représentée comme une sorte de Madone au Minotaure. Des siècles avant la Madone, la Vierge elle-même.
Майката държи едногодишно или двугодишно то минотавърче, което е бебе с бича глава.
Et donc Pasiphae tient dans ses bras l'enfant, le petit minotaure qui doit avoir 1 ou 2 ans et avec sa tête de taureau.
Киликс е намерен в днешна Италия, в Лече, около Лече.
Ce kilix a été trouvé en fait dans l'Italie actuelle, près de Lecce.
Et se съхранява тук в Националната библиотека на Париж.
Et donc il est conservé ici dans la Bibliothèque nationale.
Тази картина беше много важна да даде доказателство на моята интерпретация и на моето усещане за Минотавъра като изоставено дете.
Et donc pour moi, ce tableau, enfin cette représentation était importante puisque c'était une sorte de quelque chose qui venait prouver ma vision, mon interprétation de l'histoire du Minotaure comme celle d'un enfant abandonné.
Outre l'histoire antique, qui est donc l'enfance de l'humanité, il y a aussi l'histoire du socialisme. Vous avez écrit déjà un texte intitulé « J'ai vécu le socialisme », où vous y avez survécu. Votre livre parle beaucoup de cette culture, et plutôt culte de secret de l'époque communiste, écouter en cachette la radio, ne pas parler, être comme tout le monde, paraître comme une famille normale, également ce rejet du passé. Donc en Bulgarie, tout avait commencé le 9 septembre 1994, tout comme... 44. Tout comme pour l'Ukraine, tout a commencé en 1917. Je pense que nous sommes nombreux ici à avoir connu cette période-là. On voit très distinctement dans votre livre l'installation de cette opération de lavage de cerveau. Et en même temps, dans un des épigraphes que vous avez choisi, vous parlez, donc dans ce mélange dont vous avez le secret, de la fin des dinosaures et de la fin de l'époque soviétique. Pardon, donc décidément, elle ne me lâchera pas. Vous parlez de la fin du communisme et vous dites que le spectacle de dinosaures mourant et donc la fin de la guerre froide était l'une des choses les plus insoutenables que vous ayez jamais vues. Maintenant que les années vous séparent, enfin de plus en plus d'années vous séparent de cette période, portez-vous le même regard sur cette période socialiste de la Bulgarie? Est-ce que cette période a été également importante, pour constructive pour vous? Serez-vous devenu écrivain si vous aviez vécu dans une autre période, dans un autre pays?
Да и не.
Oui, non.
Моята така, как да кажа, моята стратегия да разказвам за това време е като не разказвам нито, като не акцентирам само върху социализма. Моята стратегия е да смесвам лично и историческо. Личен исторически разказ.
Ma stratégie pour raconter cette période, c'est pas uniquement la c'est pas que l'histoire officielle, mais c'est justement de mêler les histoires personnelles à l'histoire officielle.
Веднага след падането на стената, в България излязоха доста книги, които говореха на едро за социализма.
Juste après la chute du mur, il y a eu beaucoup de pas mal de livres qui sont parus et qui parlaient, enfin qui traitaient justement dans les enfin comment dire
за рамката на социализма.
Oui, du cadre, hein, donc pas dans le détail, on va dire, du socialisme.
За идеологията по скучен абстрактен начин.
Et donc il parlait par exemple de l'idéologie d'une manière abstraite et assez ennuyeuse.
А всекидневният човек отново остана без история.
Et là, l'homme du quotidien, l'homme ordinaire, le lambda, eh bien, lui aussi, il est resté encore dans l'ombre, il est resté sans histoire.
Тоталитарните режими произвеждат една особена култура на мълчанието.
Les régimes totalitaires produisent une особена
култура на мълчанието.
Une culture tout à fait spécifique du silence.
Хората не разказват поради срам, поради страх, поради други причини.
Les gens ne racontent pas, que ce soit par honte, que ce soit par peur, que ce soit pour d'autres raisons.
Това е мой личен опит от собственото ми семейство, от семействата на около мен. Вътре в семейството има едно особено мълчание между родители и деца.
Ça c'est ce que j'ai vécu. C'est ma propre expérience à la fois dans ma famille et la famille de ceux qui m'entouraient. Et donc il y avait du silence, et notamment du silence entre les parents et les enfants.
Имам опит с един проект, който се казва «Аз живях социализма».
Et donc j'ai l'expérience d'un projet qui s'appelle «J'ai vécu le socialisme».
Събирахме истории от обикновени хора, техните малки лични истории за социализма.
On a récolté justement les petites histoires personnelles de plusieurs personnes complètement différentes, des histoires personnelles qui ont eu lieu donc sous le socialisme.
И знам колко трудно човек се решава да проговори.
Et je sais à quel point il était difficile pour tous ces gens-là de prendre la parole sur ce sujet.
Защото социализма е набивал в главата ни постоянно, че твоята лична история не е важна сама по себе си, като уникална история. Тя е важна само като част от една обща колективна история.
Parce que le socialisme n'arrêtait pas de nous rebattre les oreilles en nous disant que notre histoire en elle-même, elle n'était pas importante. Elle n'était importante que comme, justement, comme partie de la grande histoire.
Така че моето отношение към, моето любопитство към този период е любопитството към личните истории на хората, живели там.
Ce qui fait que mon rapport, plutôt ma curiosité à l'égard de cette époque, c'est une curiosité à l'égard de toutes les vies personnelles. Des gens d'époque.
И как се преплитат малките и големите истории?
Et la manière dont s'imbriquent les petites et les grandes histoires.
Ще си позволя да прочета няколко реда от романа, които отговарят на този въпрос.
Et je me permettrai de lire un extrait justement du roman qui est sur ce sujet.
Всъщност целият ми пубертет може накратко да бъде описан през сложната политическа обстановка на 80-те. Първа целувка с момиче, умира Брежнев. Втора целувка с друго момиче, умира Черненко. Трета целувка, умира Андропов. Аз ли ги убивам? Първи несръчен секс в парка, Чернобил. Следва дълъг период на полуразпад.
D'ailleurs, tout le temps de ma puberté peut être décrit à travers le prisme de la complexité de la situation politique des années 1980. Premier baiser avec une fille, Brejnev meurt. Deuxième baiser avec une autre fille, Tchernenko meurt. Troisième baiser, Andropov meurt. Est-ce moi qui l'ai tué ? Première baise maladroite dans le parc, Tchernobyl. Suite une longue période de semi-décomposition.
On parle beaucoup de temps qui s'écoule. C'est une véritable chronique du temps, de son irréversibilité, même s'il y a un très joli passage, donc l'évocation de ce film de Vertov sur une vache qu'on désosse et qu'on fait revivre après. Parler aussi des capsules, donc du temps qu'on essaye de capturer, de préserver, peut-être dans un espoir au combien vain d'immortalité. Vous parlez aussi beaucoup de listes, donc vous l'avez évoqué déjà. Donc il y a effectivement dans ce livre beaucoup de listes et des anti-listes. Donc anti-listes, ce sont les choses qu'on ne peut pas emmagasiner et stocker. Il y a même une liste de réponses à la question « Comment vas-tu ?». Si vous devriez en faire une liste aujourd'hui, vous concernant, que mettriez-vous dans cette capsule du temps qui était effectivement et qui est toujours une espèce d'obsession et de tradition de mettre des choses qui nous concernent, des vestiges matériels de notre civilisation et de notre époque à l'intention des générations ou des civilisations qui viendraient après nous. Donc, quelle serait votre liste, vous concernant, Georgi Gospodinov ?
C'est ça ma liste aujourd'hui.
Това са списъци, както казахте, на странни, нетрайни неща, на малки неща.
Cette histoire des listes, comme vous l'avez dit, sur les choses éphémères, périssables.
И бих продължил да правя такива списъци, списъци на нетрайното.
Je continuerai volontiers à faire des listes justement de l'éphémère.
Аз съм дълбоко антимонументален човек.
Je suis profondément un homme anti-monumental.
Идвам от време и от строй, който беше силно монументален.
Je viens d'une époque et d'un régime qui était fortement monumentaux.
И в този смисъл изпускаше от погледа си всички малки истории, миризми, цветове, усещания.
Et donc du coup, il passait à côté, il ne voyait pas les petites histoires, mais aussi les saveurs, les senteurs, les odeurs, les sensations.
Героя вътре казва, че само нетрайното си заслужава да бъде събирано.
Le héros à l'intérieur dit que seul l'éphémère mérite d'être collectionné.
Защото нетрайното е много по-близо до човешката мяра за нещата. Човек също е нетраен.
Parce que justement l'éphémère est beaucoup plus près de la mesure humaine. L'homme aussi est quelque chose d'éphémère.
По повод въпроса за връщането назад във времето, да, героя се опитва всъщност да постигне отново детството си, защото детството е онова царство на вечна, тотална емпатия.
C'est aussi pour cela que le héros, après, tente de revivre sa vie, mais pour retrouver, à l'envers, pour retrouver l'enfance. Parce que l'enfance, c'est le moment où tout est éternel.
Само в детството си сме безсмъртни.
Il n'y a que dans l'enfance que nous soyons immortels, que tout soit devant nous.
Et един от епиграфите към романа казва, има само детство и смърт и нищо по средата.
L'un des épigraphes, d'ailleurs, dit, il n'y a que l'enfance et la mort et rien entre les deux. Ah, y a peut-être là...
Eh bien, je vous propose une autre liste littéraire, cette fois-ci. Donc, une arche de Noé, page 195.
Page, tu m'as dit 195. Complexe de Noé. J'imagine un livre dans lequel on trouve chaque espèce et chaque genre. Du monologue à l'épopée en hexamètre, en passant par le dialogue socratique, du conte à la liste, en passant par le traité, de l'Antiquité aux arrêtés concernant les abattoirs. Tout peut être réuni et transporté dans un livre de ce genre. Il doit écrire, 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 enregistrer et conserver, être comme une arche de Noé. Là, il y a des créatures de toutes sortes, petites et grandes, pures et impures. Il faut prendre de tous les genres et de toutes les histoires. Les genres purs ne m'intéressent guère. Le roman n'est pas un à rien, comme le disait Gaustin. Je dois écrire, 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 enregistrer et conserver, être comme une arche de Noé. Pas moi, ce livre. Seul le livre est éternel, seules ses couvertures surnageront au-dessus des vagues, seules les créatures à l'intérieur, entre les pages où cela fourmille de vie, survivront. Et lorsqu'elles verront une terre nouvelle, elles se reproduiront et se multiplieront. Et ce qui a été décrit se remplira de sang et prendra vie de manière parfaite, et le lion se transformera en lion, le cheval hennira comme un cheval, la corneille s'envolera de la feuille avec un exécrable croassement. Et le Minotaure sortira au grand jour.
C'est aussi un livre sur la mélancolie animale. Il y a beaucoup de réflexions sur les zoos, sur les musées naturels, enfin l'histoire naturelle, des réflexions plutôt tristes. Mais il ne s'agit pas d'un livre, je dirais, platement manichéen et, où l'homme est un méchant et la nature est sublime, puisqu'il y a aussi une histoire drôle et savoureuse sur un bouddhiste et les insectes. Il y a surtout chez vous, et ce mot a été déjà prononcé, ce refus d'anthropocentrisme. Vous ne regarderez jamais, enfin en tout cas moi, je ne regarderai plus jamais une huître ou un escargot de la même manière après avoir lu votre livre. Ce que Georg Gospelin a fait, c'est qu'il nous invite à d'enlever les écouteurs des iPods et d'entendre ces trompettes de Jéricho qui sont en fait le bruit des abeilles et plutôt la disparition de ce bruit des abeilles. Et c'est un livre aussi sur l'empathie. Et pour illustrer cette affirmation, je voudrais que Marie lise le passage sur le rêve du Minotaure, 219.
Le rêve du Minotaure. Je rêve que je suis beau. Pas exactement beau, mais indifférenciable, comme les autres. C'est ça, être beau. C'est être comme les autres. Ma tête est légère, mes yeux sont sur le devant de mon visage, j'ai un nez et non des naseaux. J'ai une peau humaine, une fine peau humaine. Je marche dans les rues et personne ne me remarque. C'est ça le bonheur, n'être remarqué de personne. Ce rêve est heureux. Je marche lentement au début, je me tiens à l'écart des gens qui viennent en face de moi, je me retire tout au bout du trottoir, je rase les fenêtres des maisons. Mais le miracle s'est produit. Personne ne s'enfuit loin de moi, personne ne pousse des cris de terreur en voyant un monstre. Les enfants ne se cachent pas derrière leur mère, les petites vieilles ne se signent pas, les hommes ne tirent pas leur glaive. Je marche dans la rue. Il fait clair. Je n'ai jamais vu autant de lumière depuis que je suis née. Une femme sans le vouloir m'a bousculée. J'ai eu peur qu'elle ne se mette à crier. Elle s'est retournée, m'a regardée de tout près. Elle ne m'a pas reconnue. Elle n'a pas crié. Elle a souri et s'est excusée. Personne ne m'avait présenté d'excuses jusqu'à présent. Je vois des bancs sur lesquels des gens sont assis. Je m'assieds aussi. Seule. Je regarde ce que font les gens et je fais comme eux. Ils sont assis et regardent d'autres personnes. Je suis assis et je regarde d'autres personnes. Ensuite, le soir commence à tomber. J'entends un petit garçon dire à son père « Papa, on rentre à la maison, il commence à faire nuit ». Les mots « nuit » et « maison » sont la première chose alarmante de tout le rêve jusque-là. La nuit a toujours été ma demeure, mais là, je me suis sentie sans domicile. Pour la première fois, j'ai eu peur de m'être perdue. Ce qui est comique, car je ne me suis jamais perdue alors que tout de même je viens d'un labyrinthe. Et plus ma peur grandit, plus je rapetisse. Un homme grand se penche au-dessus de moi, il me saisit avec sa grande main, je remarque qu'il ne tient pas de glaive, et me demande si je me suis perdue et si je connais mon adresse. Je me tais. « Et elle est où, maman ?» demande l'homme. « Tu vas me dire où elle est allée, ta maman ?» Il ne fallait pas qu'il me pose cette question. Je sens ma mâchoire s'allonger, mon crâne devenir lourd et dur, or je ne veux pas le blesser. Par bonheur, le rêve touche à sa fin, car la situation devient totalement sans issue. C'est le moment où les songes se brisent. Je me suis réveillée dans la nuit de ma demeure habituelle. C'était mon rêve le plus heureux. Un jour avec des gens que je n'ai pas tués, qui ne m'ont pas tué, qui ne m'ont même pas remarqué. Il ne s'est rien passé de mal entre eux et moi. Je suppose que les hommes ne font pas ce genre de rêve. Dans leurs rêves, ils errent dans des labyrinthes sombres et se battent avec des minotaures.
D'où vient cette, ce souhait de parler de la nature et du partage de la planète que nous faisons avec le monde animal et végétal même?
Au детство.
De l'enfance.
Très bien.
Това разговаряне с мравките, с минотаврите, с междуживия и неживия свят е нещо, което всички сме знаели като деца, така или иначе.
Le fait de parler avec les fourmis, avec les animaux, le monde végétal, etc. Tout cela, on le sait depuis l'enfance, dans l'enfance.
Darwin, в известното си съчинение "Произход на видовете", казва нещо, което на онзи език от 19 век би трябвало да звучи като че животните са наши Bretthern in pain.
Alors, Darwin, donc dans l'origine des espèces, dit dans la langue du XVIIIe siècle quelque chose qui devrait dire, et j'ai pas compris, que les animaux sont.
Que tu bratia po bolka.
Ah, sont nos frères de peine.
И това е страшно важно за героя, който е свръхемпат. Неговата емпатия се отключва тъкмо през болката.
Et ça c'est très important justement pour le héros qui souffre d'une très forte empathie. Pour celui qui a de l'empathie justement, c'est à travers la douleur, à travers la peine qu'il a de l'empathie.
Човекът си е присвоил правото на болка. Някак си живеем със съзнанието, че само човекът изпитва болка.
Et nous avons un petit peu annexé la peine. Nous imaginons que nous croyons qu'il n'y a que l'être humain qui puisse éprouver de la peine.
Когато си истински емпат, а децата са такива, можеш да почувстваш болката на една гинко билоба, на една крава, на един оклюв.
Et lorsqu'on a une vraie empathie, or les enfants sont de vrais empathiques, eh bien on peut sentir la peine d'un ginkgo biloba, d'une vache, d'un escargot.
И има цяла част от романа, която говори за това.
Il y a toute une partie du roman qui parle de cela justement.
И там има изковаване на един морален закон, така да кажем, по Кант.
Et là il y a une loi morale qui est fixée, enfin qui est fixée sur la pierre un peu comme chez Kant.
Никое животно не прави така. Ако нещо, едно животно не го прави, не го прави и ти. Това минава от тата границата на доброто.
Aucun animal ne fait cela. Et donc, si aucun animal ne le ferait, ne le fais pas toi non plus, parce que ça veut dire que tu as franchi la limite du bien.
Така че събуждането на животното в нас, на минотавъра в нас, ако щете, е и в някаква степен éthique impératif.
Et donc réveiller l'animal qui est en nous, réveiller le minotaure qui est en nous si vous voulez, c'est un impératif éthique.
Peut-être un prolongement de cela, c'est aussi un livre qui est une ode à la beauté et je propose notre extrait sur le sublime qui est partout.
La bouse de buffle, où le sublime est partout. Je me souviens que nous marchions dans une ville musée, célèbre pour son architecture du réveil national, son insurrection, ses incendies, canons en cerisier. L'histoire se dévidait dans les socaques, mais ce qui émerveillait le plus mon père, c'était les géraniums aux fenêtres, et il louait à voix haute ceux qui prenaient soin de ses fleurs. Tout à coup, il s'est arrêté dans une rue et a tourné longuement, admiratif, autour de quelque chose qui se trouvait par terre. Je suis allée voir ce qu'il avait bien pu découvrir, une bouse de buffle. Elle se tenait là, comme une cathédrale en miniature, coupole d'églises et dômes de mosquées que toutes les religions me pardonnent. Une mouche tournoyait comme un ange tout autour. « Il est rare maintenant de voir une bouse de buffle », a dit mon père. « Personne n'élève de buffle. » Et il a expliqué longuement et avec délices comment l'utiliser comme engrais pour les citrouilles, pour badigeonner un mur, barbouiller une ruche d'abeilles, de celles qui sont vieilles, tressées, comment en faire un médicament en cas de mal à l'oreille. On la chauffe bien et on l'applique sur l'oreille malade. À ce moment-là, je pouvais admettre avec lui l'idée que les maisons du réveil national que nous regardions, de même que les pyramides de Gizeh, étaient de loin bien moins importantes que l'architecture, la physique et la métaphysique d'une bouse de buffle. Même si vous n'êtes pas né à Versailles, Athènes, Rome ou Paris, le sublime trouvera une forme pour se manifester à vous. Si vous n'avez pas lu le pseudo-Longine, n'avez pas entendu parler de Kant ou de... Si vous habitez les éternels champs illettrés de villages et de villes anonymes, de jours et de nuits déserts, il se découvrira tout de même à vous dans votre propre langue. Comme la fumée d'une cheminée dans un matin d'hiver, comme un morceau de ciel bleu foncé, comme un nuage qui vous rappelle quelque chose d'un autre monde, comme une bouse de buffle. Le sublime est partout.
En parlant du sublime, je voudrais revenir à ton travail, Marie, pour avoir assisté à une de tes conférences à l'école de traduction littéraire du Centre national du livre. Tu as dit que tu travailles toujours avec un accompagnement musical et que tu associes toujours une œuvre à une musique, à un morceau, à un interprète ou à une œuvre en particulier. Est-ce que tu pourrais parler de ça et de nous dire quelle œuvre et pour quelles raisons avait été associée peut-être à Georgi Gospodinov ou en particulier à ce roman?
Alors, ça c'est à l'époque où j'étais à Budapest, et donc je travaillais à l'Institut français toute la journée. Et en préparation des Belles étrangères, je voulais absolument que pour les Belles étrangères de 2001, il y ait justement cette nouvelle génération d'écrivains, donc Georgi, qui venait juste d'écrire son premier roman, mais aussi d'autres écrivaines, dont Emilia Dvorianova, que je traduis beaucoup. Donc j'avais relativement peu de temps, et il fallait que je les traduise parallèlement, un le matin, l'autre le soir, et donc il fallait que j'entre tout de suite dans leur écriture. Et comme pour moi, d'abord la langue est avant tout une histoire de musique, beaucoup ici le savent, mon amour pour le bulgare, le coup de foudre que j'ai eu pour le bulgare, c'était pour la musique de cette langue quand j'avais 13 ans. Étant donné que pour moi aussi, le bonheur de traduire, c'est le bonheur justement d'écouter une musique qui résonne en moi, la musique d'un texte étranger, et d'essayer de la refaire dans ma langue. Donc tout est affaire de musique. Et donc je me suis dit que pour pouvoir entrer très vite dans des œuvres aussi différentes, il fallait que je les associe à un morceau musical différent que j'écouterais en boucle. Donc il ne s'agit absolument pas d'un fond musical. Moi, je ne travaille pas avec un fond musical, je ne peux pas. La musique, je l'écoute. Et puis quand je travaille, je travaille. Mais là, c'était vraiment quelque chose qui me permettait... C'était presque un réflexe de Pavlov. À tel point d'ailleurs que maintenant, quand j'écoute les sonates de Brahms auxquelles j'avais associé un roman naturel, j'ai des pans du livre qui me reviennent dans la tête. Alors, je n'associe pas un auteur à une œuvre, mais j'associe un texte à une œuvre. Et il y a des choses très très bizarres qui se passent. Ce qui veut dire que le texte, quand on le traduit, on est avec lui. Et il nous habite totalement et il nous dit, à la limite aussi, quelle musique l'associer. Je me souviens par exemple, le texte d'un jeune écrivain qui s'appelle Zakhari Karabashliev. Le texte c'est 18% gris. Et là c'était plutôt un rythme assez jazzé finalement, un rythme très différent, bien. Et j'ai eu l'idée, alors le choix il se fait, consciemment je ne saurais pas dire, j'ai eu l'idée de l'associer à quelque chose que j'écoutais, que j'avais découvert, qui était une interprétation, à la fois une interprétation coltranienne, si je puis dire, de Bach. Donc quelqu'un qui joue à la fois sur Bach et Coltrane. Et puis, j'ai traduit en écoutant en boucle. D'ailleurs, le morceau d'Art de la fugue, quand j'oublie de mettre mon portable en silencieux, vous savez, hein, c'est l'Art de la fugue qu'on entend, et bien il vient justement de cette interprétation. Et quand j'ai raconté à l'auteur, les auteurs maintenant ils savent, et ils me disent, mais tiens, à quoi tu m'as associé, je lui ai raconté. Il m'a dit, mais ça c'est vraiment très étrange, parce que moi quand j'ai écrit ce bouquin, j'écoutais beaucoup Le clavier bien tempéré, et j'écoutais beaucoup Coltrane. Alors, Vive de la mélancolie, je venais de découvrir un opéra baroque que je trouve absolument sublime, donc du XVIIe siècle, qui s'appelle le déluge universel d'un certain Michelangelo Falvetti. Je vous invite à vous précipiter sur le disque. Et c'était justement ce côté foisonnant, baroque. Encore une fois, c'est d'abord par la musique que je l'ai associé. Et ensuite, quand je me suis demandé ce que c'était que cette œuvre, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait beaucoup de résonance avec ça. Parce que là-dedans, il y a l'Arche de Noé, donc il y a le déluge. Parce qu'il y a un moment musical qui s'appelle Dans la caverne profonde, donc la caverne aussi du Minotaure. Voilà. Et en plus, donc, c'est. Encore une fois, chez moi, la traduction est un bonheur, un réel bonheur. C'est pour ça que peut-être. Quand on m'invite à dîner et que je dis non parce que je traduis, il faut me pardonner. Et en plus, ce bonheur, il est doublé quand il y a le bonheur de traduire avec l'écoute d'un morceau qui va avec.
Est-ce que Guergui a partagé est-ce que vous avez partagé avec lui ce morceau? Est-ce qu'il a eu le même amour pour ce... pour cette œuvre?
Не, аз когато пиша, слушам пък съвсем друга музика.
Moi, quand j'écris, j'écoute une musique très différente.
Слушам Beatles, Arvo Pärt.
J'écoute les Beatles, j'écoute Arvo, je sais plus comment on prononce. Pärt, oui.
По повод операта, последното нещо, което написах, беше либрето за опера, но много различно от бароковата, за модерна опера.
À propos d'opéra, la dernière chose que j'ai écrite, c'est un livret d'opéra, mais pas un opéra baroque du tout, un opéra moderne.
Но, да, Брамс, да. За Брамс съм обичан. За естествен роман, нали?
Brahms, oui, c'était un roman naturel, et donc il dit, oui, j'aimais.
Je pense peut-être de passer la parole à la salle, si vous voulez profiter de la présence de l'auteur et de son traducteur.
Bonsoir, je suis heureux de cette rencontre, de vous rencontrer à travers votre traductrice. Je me suis laissé envahir par les mots, les extraits que vous avez lus. Donc. Je me dis que dans chaque rencontre, les premiers moments sont très très précieux. Donc j'en ai profité, j'avais les yeux fermés, il y a plusieurs extraits que vous avez lus. En bulgare et après en français ou surtout en français, j'avais l'impression, donc voilà, je me suis laissé envahir et j'ai vu que l'ordre de bataille, si j'ose dire, des mots qui me parvenaient était, ça ressemblait au théâtre. J'ai vu que vous avez aussi des pièces de théâtre à votre actif. Voilà ma question. Est-ce que votre prose, si dans ces premières minutes de rencontre, je l'assimile au théâtre, est-ce que ce côté dramatique n'est pas une pièce de théâtre. Les phrases sont scandées, elles sont courtes, et voilà. C'était mes premières impressions lors de cette rencontre. Quelle est la part du théâtral, du théâtre, du dramatique dans votre prose? Merci.
Thank you.
преди да започна да пиша проза, всъщност аз пишех поезия и продължавам да пиша поезия.
Avant d'écrire de la prose, en fait, j'écrivais et je continue d'écrire de la poésie.
И мисля, че поезията силно е повлияла към това, което описвате, към този стил.
Et je pense que la poésie a sûrement beaucoup à voir avec ce que vous décrivez avec ce style-là.
Поезията ни учи как да стигнем най-бързо до същността, да направим най-краткия път, да бъдем стегнати.
La poésie nous apprend comment atteindre l'essentiel le plus rapidement, en peu de mots, et comment en étant concis.
Това е, тя създава особена дисциплина, особена техника.
Elle donne une discipline, une technique particulière.
Театъра дойде след първия ми роман, написах две пиеси, но преди този, така че сте прав, минах през театъра преди да стигна до физика на тъгата.
Le théâtre est venu après mon premier roman, donc j'ai écrit deux pièces, mais effectivement vous avez raison, avant ce roman-là, je suis passé par le théâtre avant.
Пиесата, която когато отидох в Берлин за една година и седнах да пиша физика на тъгата.
Lorsque je suis partie à Berlin pour un an et que je me suis assis donc pour écrire Physique de la mélancolie.
Нищо не стана от романа, не написах нищо, но написах пиеса.
J'ai pas réussi à écrire un roman, j'ai pas fait de roman, mais j'ai écrit une pièce.
Пиесата се казва Апокалипсисът идва в 6 вечерта.
La pièce s'appelle L'Apocalypse vient à 6 heures du soir.
И сега си давам сметка, че може би е било необходимо да направя тази пиеса, за да след това да се върна към романа. Това ми е било полезно.
Maintenant je me rends compte que ça a sans doute été utile, nécessaire pour moi d'écrire cette pièce pour revenir au roman.
Ако нещото, което е близко между физика на тъгата и между театъра, е това, че и този роман, като в театъра, се опитва да говори понякога директно на читателя си. Премахва условните граници.
Ce qui est commun peut-être entre ce roman et les pièces de théâtre, c'est que ce roman, il veut établir justement un contact avec le public et donc abolir les contraintes du genre.
Имаше една много хубава рецензия за романа, където автора пише, че през цялото време усещането е, че не ти четеш романа, а този роман чете тебе.
Il y avait une recension qui était très une belle recension et l'auteur disait que il avait le sentiment que on ne lisait pas ce roman mais c'est le roman qui vous lisait.
Да, може би това е от театъра. Благодаря за въпроса.
Donc peut-être que oui, ça vient du théâtre et merci pour la question.
Alors, bonsoir à tous. Je n'ai pas spécialement de questions. Je voulais juste féliciter l'auteur d'abord et aussi la traductrice qui est Madame Vrina Nikolov, qui est une professeure formidable aussi. Je voulais juste vous dire que grâce à votre présentation, on a vraiment envie d'acheter le roman et de lire avec beaucoup d'attention. Voilà, donc je vous félicite encore une fois. Et bonne continuation.
Bonsoir. C'est une question qui s'adresse surtout à Marie. On a dit au début que le traducteur et l'auteur, bon, c'est une histoire de rencontre, de connaissance mutuelle. Alors, est-ce que c'est dans le travail du traducteur, est-ce que le fait de connaître des éléments autres que l'œuvre de l'auteur sont absolument indispensables à la traduction ? Ou bien est-ce que ça peut être cette connaissance de la personne, de son histoire, de son contexte de vie, etc. Est-ce que ça peut pas être non aussi une certaine limite à la création, à l'acte de création du traducteur?
Alors, plutôt, bonne question. dont on débat souvent entre collègues d'ailleurs, entre collègues profs, hein, traducteurs. Je pense qu'il y a deux choses qui sont, enfin pour moi, hein, dans mon expérience, qui sont fondamentales. Premièrement, c'est le fait d'avoir la chance de pouvoir traduire une œuvre quasiment entière. J'ai traduit son premier roman, j'ai traduit un recueil de son recueil de nouvelles, j'ai traduit d'autres nouvelles, j'ai traduit une pièce, j'ai traduit un extrait de la deuxième pièce, j'espère trouver un éditeur, j'ai traduit des poèmes, et donc plutôt, il me semble indispensable de traduire une œuvre entière parce que elle s'éclaire au fil de la traduction et elle acquiert une densité. Et puis la deuxième chose que j'ai aussi expérimenté beaucoup avec Emilia Dvorianova, qui est très difficile à traduire parce qu'elle a elle a une langue qui est extrêmement sa langue à elle, c'est que c'est pas forcément, alors il est vrai que la plupart des auteurs contemporains que je connais sont devenus des amis, c'est sûr, des amis proches même, mais ce n'est pas leur biographie qui m'aide, c'est plutôt les conversations qu'on a, de voir leur rapport au monde, leur rapport aux choses. Georgi a tellement, moi ce que j'aime, parmi les choses que j'aime beaucoup outre la musique de sa langue, c'est il a quand même des images qui sont incroyables. Des images qui sont bien à lui, des images qui sont complètement hors représentation, hors cliché, etc. Et c'est le fait donc de discuter de beaucoup de choses sur tout ce que nos réactions, c'est plutôt ça qui oui pour moi m'aide.
Alors je pose une question sur un livre que je n'ai pas lu, mais dont je connais le titre malgré tout, donc ça fait une petite clé pour rentrer dedans. Dans beaucoup de langues, on dit que le mot qui désigne le chagrin, la douleur, est intraduisible. Les Roumains disent que le mot « dor » exprime un état d'âme que les autres peuples ne peuvent pas ressentir. Les Portugais disent que « saudade », c'est un mot qui ne se traduit pas. Alors ma question, c'est est-ce que « tega » en bulgare a une connotation qui serait véritablement très spécifique? Et question bis, est-ce que mélancolie n'est pas un mot un peu léger et joli et 18e siècle pour tega bulgare?
Думата тега е трудно преводима, защото самата тега е трудно преводима.
Alors le mot tega est difficilement traduisible puisque elle-même, alors tristesse, mélancolie, mais ça je t'expliquerai, est aussi difficilement traduisible.
Героят разсъждава върху това дали тегата има география.
D'ailleurs, à l'intérieur, le roman se pose la question de savoir si la tega, tristesse, mélancolie, a une géographie.
И дали едни места не са тъжни в едно време, а други места в друго време. Тоест тази тъга да се придвижва, да има миграция на тъгата.
Il se demande s'il n'y aurait pas une migration justement de la tristesse dans la mesure où certains endroits seraient tristes un moment, d'autres un autre moment.
Ние не случайно имаме турската дума за тъга хюзюн, имаме португалското саудаде,
Donc effectivement, on a donc le mot tega en bulgare, on a le mot saudade en portugais, husun en turc.
Физика на тегата е преведена на 8 езика и при всеки от езиците превода на заглавието е било проблем.
Donc la physique de la mélancolie a été traduite en 8 langues et dans chacune ça a été un problème.
Моята английска преводачка дори намери докторат или не знам магистърска теза върху непреводимостта на славянския концепт за тъга на английски.
Ma traductrice en anglais américaine a d'ailleurs trouvé une thèse qui a été écrite sur l'intraduisibilité du concept de tristesse slave.
Освен това, аз много харесвам българската дума за тъга. Е кратка дума, но експресивна дума.
Et en plus, moi j'aime bien ce terme de tega en bulgare parce que elle est très expressive, il est très très court.
И така, като кажете тъга, има едно преглъщане. Има едно преглъщане на премълчаното. Има един опит да не се разплачеш. Тъга, тъга.
Et dans ce mot, tega, il y a comme un, on ravale, hein, une sorte, les, on n'essaie de pas pleurer en le disant, on ravale.
Има това е, което е много българско.
Avec cette voyelle е, qui est très bulgare.
Това, разбира се, няма как да остане в sorrow или меланхолия. Но меланхолия ми се струва добра дума, добър избор.
Alors évidemment, ça peut pas, on peut pas le garder dans sorrow ou bien dans mélancolie, mais mélancolie me semble un bon mot et un bon choix.
Защото описва по-общо състояние, това, което ни обзема, което обзема света в последните години, според романа, е някакъв вид такава меланхолия, която залива, залива света. Дълго и бавно чувство.
Parce que ce qui commence à recouvrir, à inonder le monde lentement, mais durablement, c'est justement un sentiment de tristesse, mélancolie. Et donc, mélancolie, c'est un terme qui a ce, cette, cette durabilité.
И тъгата и меланхолията, в тях има светлина, известна светлина, има мечтания за някъде другаде. Има го онова чеховското към Москва, към Москва.
Et puis il y a ce, hein, ce, cette phrase tchékovienne vers Moscou, vers Moscou. Et donc il y a aussi la lumière. Il y a le. Alors pourquoi j'ai choisi mélancolie? Parce qu'évidemment je me suis posé la question. Alors je l'explique dans le dans la préface. Pendant plusieurs mois d'ailleurs, mon et je me suis rendu je me rends compte en, en fouillant dans mon ordinateur, j'ai encore retrouvé des files et des fichiers qui portaient le nom physique de la tristesse, justement. Et plus j'avançais dans, dans la traduction du livre, et moins tristesse me semblait être adéquate. Alors, peut-être aussi, il y a eu le fait que la traduction italienne qui a été faite avant la traduction française par un ami et collègue que je connais bien, ça a déjà été la... comment on dit, Melinconia ou je sais plus, voilà. Melinconia. Alors, ce qui, pour moi, il y a deux choses qui ont été décisives, c'est le fait effectivement que la tristesse, moi j'y vois quelque chose de, comment dirais-je, causé par quelque chose de plus concret, par un événement, et pas quelque chose de plus diffus, alors que la mélancolie me semble être effectivement quelque chose d'un peu plus diffus, etc. Bien. Et puis, ce que je trouve quand même, c'est qu'il y a un plaisir de la mélancolie. Il n'y a pas de plaisir de tristesse. Enfin, je ne vois pas. Donc, voilà, c'était les deux raisons pour lesquelles j'ai choisi mélancolie.
Vous dites dans votre livre qu'un bon livre doit donner des conseils sur tout. Eh bien, je puis affirmer que ceci est un bon livre, puisqu'il parle de beaucoup de choses, puisque lorsqu'on arrive vers la fin, on commence à tourner les pages de plus en plus lentement, afin de prolonger le plaisir de lecture et de ne plus en sortir le plus tard possible. Et j'en profite pour dire aussi que c'est un beau livre et saluer le travail de l'éditeur, puisque ce livre a tenu, et donc c'était la décision de l'éditeur, ce qui n'était pas évident, de conserver les images, les dessins, les photographies, les schémas qui illustrent tout au long le texte et qui participent en fait de la démonstration. C'est un livre aussi qui, dans le texte, a conservé ce jeu entre les différents polices de caractère, les différentes grosseurs de lettres. Et je voudrais saluer aussi le courage de l'éditeur, qui est un petit éditeur, de se lancer dans la traduction de livres, puisque la traduction, comme vous savez, est un plaisir très cher. Et le lecteur ne se rend pas toujours compte du prix en fait que représente la différence de l'investissement entre guillemets, pardon, de parler des choses aussi bassement matérielles que représente un livre traduit et un livre écrit en français. Et c'est grâce à ces éditeurs, à leur courage, que nous pouvons accéder à des romans sublimes qui nous viennent du monde entier et qui, sans cette traduction, nous resteraient inaccessibles. Vous dites vers la fin que quelqu'un doit constamment penser et observer le monde pour exister, ou bien penser et observer celui qui pense et observe le monde. Donc je vous remercie de nous avoir invités dans votre univers et de l'avoir partagé avec nous. Je remercie également la traductrice nous avoir aidé d'accéder au plus près à cet univers, et je vous souhaite une bonne lecture et beaucoup de plaisir en découvrant ce livre.
Pour terminer sur une note un peu drôle, un très court passage, la liste qu'on va faire à deux d'ailleurs, la liste du périssable. Excusez-moi, j'ai oublié la page.
Peut-être.
C'est un roman labyrinthe. Hein.
Alors, je suis dans la cinquième. Voilà.
Неща, които не стават за колекция. Списък на нетрайното.
Choses qui ne peuvent pas être collectionnées, liste du non durable.
Сирена. Вмирисват се.
Des fromages, ils puent.
Ябълки, спаружват се, гният.
Des pommes, elles se rident et pourrissent.
Облаци, агрегатно променливи.
Des nuages, ils changent d'état.
Сладко от дюли, хваща коричка от мухъл.
De la confiture de coin, elles se couvrent d'une croûte de moisie.
Любовници, стареят, спаружват се, виж ябълки.
Des amantes, elles vieillissent, se rident. CF, des pommes.
Деца порастват.
Des enfants, ils grandissent.
Снежни човеци, топят се.
Des bons hommes de neige, ils fondent.
Попови лъжички и буби, телесно непостоянни.
Des tétards et des cocons, physiquement inconstants.
Ако теглим чертата, ще се окаже, че нищо органично не става за колекциониране. Свят с непрекъснато изтичаш срок на годност. Нетраен, спаружваш се, гниещ, разваляш се. И за това прекрасен свят.
Si nous tirons un trait, il s'avérera que rien d'organique ne peut être collectionné. Un monde à la date de péremption qui n'en finit pas de passer, un monde non durable qui se ride, pourrit, se gâte, et pour cette raison, un monde merveilleux.